Jeudi 13 août. Erin. Ce matin, à 4 heures, mes connards de voisins se sont mis à s'engueuler. Alors j'ai décidé de sortir de mon appartement de merde pour aller courir dans Newcastle. J'étais toute habillée et prête à partir quand je me suis dit « Pourquoi courir ici alors que je pourrais courir là-bas ?» Du coup, j'ai pris la route jusqu'à Beckford, je me suis garée sur le parking de l'église et j'ai emprunté le sentier qui longe la rivière. Au début, ce n'est pas évident, mais une fois qu'on a dépassé le bassin, qu'on a franchi la colline et qu'on est redescendu de l'autre côté, le terrain devient beaucoup plus plat et c'est un bonheur pour l'amatrice de footing que je suis. Avant l'arrivée du soleil estival, la température est agréable. Tout est très calme, très beau. Et surtout, il n'y a pas le moindre cycliste. Rien à voir avec les berges de Regent's Canal à Londres où je devais slalomer entre vélos et touristes. Au bout de quelques kilomètres, la vallée s'élargit et on abandonne peu à peu la colline verte constellée de moutons. Le chemin est plat, caillouteux et bordé d'ajoncs avec de-ci de-là un carré d'herbe folle. J'ai couru comme une acharnée, tête baissée, jusqu'à atteindre au bout d'environ 2 kilomètres un petit cottage un peu à l'écart de la rivière, à proximité d'un bosquet de bouleaux. J'ai ralenti pour reprendre mon souffle et je me suis approchée de la maisonnette isolée. Si elle ne semblait pas habitée, elle n'était pas pour autant abandonnée. Il y avait des rideaux aux fenêtres, partiellement tirés, et les vitres étaient propres. J'ai jeté un œil à l'intérieur. J'ai vu un petit salon où trônaient 2 fauteuils verts encadrant une table basse. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était fermée à clé, alors je me suis assise à l'ombre, sur le perron, et j'ai bu d'un trait une bonne partie de ma bouteille d'eau. Les jambes tendues devant moi, j'ai fait travailler mes chevilles et j'ai attendu que mon rythme cardiaque ralentisse. Au bas de l'encadrement de la porte, j'ai remarqué un nom gravé dans le bois. Annie la Folle, avec une petite tête de mort dessinée à côté. Dans les arbres derrière moi, quelques corbeaux se disputaient, mais à part ça et le bêlement occasionnel de quelques moutons, la vallée était parfaitement silencieuse. Intacte. J'ai beau me considérer à 100% comme une fille de la ville, je dois admettre que cet endroit, aussi bizarre soit-il, possède un vrai pouvoir d'attraction. L'inspecteur en chef Townsend a commencé le briefing peu après 9h. Nous n'étions pas très nombreux. Quelques agents qui avaient interrogé le voisinage, la jeune Cali, l'expert chevelu et moi-même. Townsend avait vu le légiste pour les résultats de l'autopsie, mais il n'y avait rien d'inattendu. Nell avait frappé les rochers au cours de sa chute et était décédée instantanément. Il n'y avait pas d'eau dans ses poumons, signe qu'elle ne s'était pas noyée et que tout était déjà fini quand elle avait atteint la surface du bassin. Elle ne présentait aucune lésion que sa chute n'aurait pu expliquer. Aucune griffure, aucun hématome suspect. Les examens sanguins révélaient par ailleurs un taux d'alcoolémie assez conséquent, l'équivalent de 3 ou 4 verres. Cali nous a fait le compte-rendu de l'enquête de voisinage, quoiqu'il n'y eût pas grand-chose à dire. On savait que Nell était passée rapidement au pub le dimanche soir et qu'elle était repartie aux alentours de 19h. On savait qu'elle était au Vieux Moulin jusqu'à au moins 22h30, heure à laquelle Lena était allée se coucher. Personne n'avait signalé l'avoir vue après ça. Et personne n'avait évoqué une éventuelle dispute à laquelle elle aurait pris part récemment, même s'il était largement admis qu'elle n'était pas très appréciée à Beckford. Les habitants n'aimaient pas l'attitude orgueilleuse de cette étrangère qui débarquait dans leur ville et se croyait habilitée à raconter leur histoire. Mais pour qui se prenait-elle? Le chevelu avait fouillé la boîte mail de Nell. Apparemment, elle avait créé une adresse pour son grand projet et avait invité les gens à lui envoyer leurs histoires. Elle avait surtout reçu des courriers d'insultes. Même si, malheureusement, je ne peux pas dire que ce soit bien pire que ce que reçoivent au quotidien bon nombre de femmes, a-t-il déclaré en m'adressant un haussement d'épaule désolé, comme s'il était personnellement responsable de tous les crétins misogynes qui rôdaient sur la toile. Nous allons évidemment continuer à suivre cette piste, mais... La suite du briefing du chevelu était en revanche beaucoup plus intéressante. Pour commencer, il nous a démontré que Jules Abbott avait menti. Le téléphone portable de Nell n'avait toujours pas été retrouvé. Mais les relevés indiquaient que si elle utilisait rarement son portable, elle avait tout de même passé 11 appels à sa sœur au cours des 3 derniers mois. La plupart des appels avaient duré moins d'une minute, certains 2 ou 3. Bref, ce n'était jamais très long, mais elle ne s'était pas non plus fait raccrocher au nez. Le chevelu avait également déterminé l'heure précise du décès. L'appareil photo installé sur les rochers, celui qui n'avait pas été cassé, avait enregistré quelque chose. Rien de très précis ni de très révélateur, seulement un mouvement flou dans le noir suivi d'une gerbe d'éclaboussure. D'après l'appareil, Nell était tombée à 2h31. mais il avait gardé le meilleur pour la fin. On a relevé une empreinte sur l'autre boîtier, celui qui est cassé. Elle ne correspond à personne dans nos fichiers, mais on pourrait peut-être demander aux habitants de passer au commissariat afin d'être officiellement mis hors de cause, non ? Townsend a acquiescé. Je sais que cet appareil photo a déjà été vandalisé par le passé, a poursuivi le chevelu. Et ce n'est donc pas dit que cette piste nous mènera quelque part, mais... Peu importe, l'a coupé Townsend. Erin, vous vous chargez de ça ? De mon côté, je vais aller interroger Julia Abbott au sujet de ses mystérieux coups de téléphone. Il s'est levé, puis il a croisé les bras et baissé la tête avant d'ajouter d'une voix grave. Je préfère tous vous prévenir. J'ai eu le commandant au téléphone ce matin. Il a poussé un profond soupir et on s'est tous regardés. On avait compris. Étant donné les résultats d'autopsie et le fait qu'aucun élément ne semble indiquer une quelconque altercation sur cette falaise, nous avons ordre de ne pas, je cite, « gaspiller de ressources pour une affaire de suicide ou de mort accidentelle ». Donc bon, je sais qu'on a encore du boulot, mais on va devoir le faire vite et efficacement, parce qu'on ne va pas nous laisser beaucoup de temps. Ce n'était pas vraiment une surprise. J'ai repensé à ma conversation avec le superintendant le jour où il m'avait mise sur l'affaire. C'est presque sûr que ce sera un suicide. Apparemment, ici, quand on est presque sûr, on clôt le dossier. Et moi, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas qu'on ait retrouvé deux femmes dans la rivière en l'espace d'à peine quelques mois. Deux femmes qui, de surcroît, se connaissaient. Elles étaient liées par la question du « où » et par la question du « qui ». Elles étaient liées par Léna, meilleure amie de l'une, fille de l'autre. Léna, la dernière personne à avoir vu sa mère en vie et la première à affirmer que tout ça, pas seulement la mort de sa mère mais tout le mystère qui l'entourait, était ce qu'elle voulait. Comment une enfant pouvait-elle penser une chose pareille ? J'en ai fait part à l'inspecteur en chef alors qu'on sortait du commissariat. Il m'a jeté un regard mauvais et a dit « Dieu sait ce qui se passe dans la tête de cette fille. J'imagine qu'elle a besoin de trouver un sens à ce qui s'est passé. Qu'elle... » Il s'est interrompu. Une femme marchait vers nous, se traînait plutôt, en marmonnant quelque chose. Elle portait un long manteau noir malgré la chaleur, sa chevelure grise était parsemée de mèches violettes et elle avait du vernis sombre sur les ongles. On aurait dit une gothique sur le retour. « Bonjour, Nikki !» a dit Townsend. La femme s'est tournée vers lui, puis vers moi, en fronçant ses sourcils broussailleux. « Hum !» elle a grogné. Certainement sa manière de nous saluer. « On se rapproche, alors ?»« On se rapproche de quoi, Nikki ?»« De savoir qui l'a fait !» elle a postillonné. « De savoir qui a poussé cette pauvre femme !» « Cette pauvre femme ?» j'ai répété. « Vous voulez parler de Daniel Abbott ? Auriez-vous des informations susceptibles de nous intéresser, madame... Elle m'a lancé un regard noir, puis s'est tournée vers Townsend. « Qui c'est, celle-là ? » elle a demandé en me désignant du pouce. « Il s'agit du sergent Morgan. » Il a répondu d'un ton neutre. « Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, Nikki, au sujet de l'autre nuit ?» Elle a de nouveau grogné avant de répondre. « Je n'ai rien vu, et même si j'avais vu quelque chose, ce n'est certainement pas à vous que j'irai en parler. » Puis elle est repartie de sa démarche traînante en grommelant. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» j'ai demandé à Townsend. « On la convoque au commissariat pour l'interroger ?»« Je ne prendrai pas Nikki Sage trop au sérieux à votre place. » Il a répondu en secouant la tête. « C'est loin d'être la personne la plus fiable. »« Ah bon ?» Elle se prétend voyante. Elle dit qu'elle parle aux morts. On a déjà eu quelques problèmes avec elle par le passé. Des histoires de fraude. Elle raconte aussi qu'elle est la descendante d'une femme qui a été assassinée ici par des chasseurs de sorcières. Bref, elle est folle alliée.